Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de Cinéphile sur Studios F 91.1 FM. Aujourd'hui, une émission consacrée à la semaine L qui aura lieu à Blois. Donc, on nous allons parler de deux films, Rosa Luxembourg et Waiting with Fire. Et pour parler du premier film, Rosa Luxembourg de Margaret et Fantrota, je reçois l'équipe de l'association Blois-Weimar avec Yuta. Bonjour Yuta.
Bonjour.
Jean-Luc, bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Et Elisabeth, bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors donc voilà, comme je l'ai dit, on va parler de Rosa Luxembourg. D'abord, j'aimerais qu'on y ait une petite présentation de l'association Blois-Weimar et aussi de pourquoi le film de Margaret T. von Trotta a été choisi pour être projeté pour la semaine L.
Bien, si je prends la parole en premier.
Voilà. Si.
Comme chaque année, nous participons comme association à la semaine L. Nous avons fait dans les années passées des conférences et cette année, nous changeons un petit peu de format et sur une recommandation de notre spécialiste cinéma interne de l'association, nous avons proposé la projection d'un film sur Rosa Luxembourg.
Donc du coup, si on peut avoir une petite présentation de d'abord qui est Margaret von Trotta, la réalisatrice du film, parce que c'est une réalisatrice qui est assez renommée en Allemagne, qui fait du cinéma depuis bien longtemps. Donc est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu, Yuta?
D'accord. Alors, Margaret von Trotta est effectivement une des plus importante réalisatrice allemande, il y en a d'autres, mais c'est elle qui est vraiment, elle est féministe, elle est d'ailleurs l'amie de la grande féministe allemande Alice Schwarz, qui édite aussi un journal qui s'appelle Emma. D'ailleurs, il y a peut-être quelques personnes qui ont vu récemment le film Rosenstrasse à la télé, bien sûr sur le canal d'Arte. Et après, il y avait un petit documentaire sur Margaret von Trotta et ça a été fait par Alice Schwarz. Bon, qui est Margaret von Trotta? Elle a fêté ses 81 ans il y a peu, le 21 février. En ce moment, elle est encore à Berlin pour la Berlinale parce que là-bas, elle présente un film qui s'appelle Ingeborg Bachmann, Die Reise in die Wüste. C'est un film, c'est pour la première fois que Margaret s'occupe de problèmes de couple. Jusqu'à présent, c'était vraiment des portraits de femmes ou bien les liaisons entre des femmes. Par exemple, les sœurs, elle a fait un film qui s'appelle Les sœurs. Elle a fait un autre film, Les années de plomb, où là, on voit la confrontation entre deux sœurs aussi, une féministe et une terroriste, de la, ce qu'on appelle communément la bande à Bader. Elle a été elle-même actrice d'abord. Elle est née donc en 42. Elle était apatride parce que sa mère était dans les provinces allemandes. Elle a dû fuir. Elle est devenue allemande donc par un mariage et ça l'a beaucoup marquée. Et elle est devenue un peu européenne parce que maintenant elle vit à Paris et à Munich, mais elle a vécu aussi en Italie. Elle a fait aussi des films, d'ailleurs, en Italie. Elle a été à 18 ans à Paris. Ça l'a beaucoup marquée parce que c'est là qu'elle a découvert la nouvelle vague. Et également, il y a quelque chose de très important pour elle. Elle a découvert aussi le passé nazi de l'Allemagne, parce que c'est vrai, et ça, je suis un peu plus jeune qu'elle, mais je peux dire que pendant les années 50, 60, jusqu'en 68, à peu près, on ne parlait pas de ce passé. Donc, elle a découvert ça aussi ici, et on voit que ces films vraiment retracent un peu la mémoire allemande.
Oui, si on peut le recentrer au film Rosa Luxembourg, je trouve que ça, ça se remarque assez, assez fortement. Il y a une scène, je trouve, dans le film où elle passe à côté d'un champ de bataille et il y a ce regard à la fois, je trouve, j'ai jamais vu la guerre filmée de cette façon, d'un regard de femme en fait et d'un regard de, on se rend compte, alors là c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est la Première Guerre mondiale, mais il y a quand même les résonances de la découverte avec des yeux de femme de l'horreur de la guerre en fait.
Et oui, et puis elle était de toute façon, elle était pacifiste, elle était contre la guerre.
Oui, avec, oui, oui.
Mais donc elle a d'abord commencé, donc quand elle est retournée en Allemagne, elle a d'abord été actrice. Elle a d'ailleurs joué dans un film de son mari, Volker Schlöndorff. Et d'après un roman de Marguerite Yourcenar qui s'appelle donc Le coup de grâce, Der Fangschuss, c'était son dernier rôle. Avant, elle a déjà joué aussi dans les films de Fassbinder. Je crois que Fassbinder est un des plus connus de cette nouvelle vague allemande, le Neues Deutsches Kino. Et donc, elle a épousé Schlöndorff. Elle a déjà participé à un film qui a eu quand même pas mal de succès aussi en France. L'honneur perdu de Katharina Blum. Et après ce film, donc elle a commencé à faire les films elle-même. Le premier film, c'est Le second éveil de Christa Klages, et qui n'était pas très connu. Par contre, ce qui a eu plus de succès, c'était Les années de plomb. Donc là, c'était vraiment, comme je disais déjà, la confrontation entre Gudrun Enslin et sa sœur Christiane. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est qu'elle a toujours choisi la même actrice pour plein de rôles. Par exemple, Gudrun Enslin, après Hildegard von Bingen, une moniale du XIIe siècle. Ensuite, Hannah Arendt, le film le plus récent, je crois, qui est passé en France. Et puis, bien sûr, entre les autres, en 86, Rosa Luxembourg. Toujours la même actrice, dans des rôles extrêmement différents, mais une actrice vraiment extraordinaire.
Barbara Sukowa.
Barbara Zukova.
Zukova, voilà, que moi j'avais découvert récemment dans le film français 2. Qui racontait l'histoire d'une histoire d'amour entre deux femmes d'âge mûr, qui était très très beau vraiment. Et moi, si j'avais découverte dans ce film-là, et là, je suis heureuse de la redécouvrir dans Rosa Luxembourg, où elle est vraiment très très impressionnante, je trouve, dans le film.
Ah, dans les autres films aussi.
Ouais.
Et je l'ai vue sur scène d'ailleurs à Paris, parce qu'elle doit vivre aussi assez fréquemment à Paris.
Elle parle très bien français.
Donc, après Les années de plomb, elle a encore fait un film qui n'avait pas un succès fou, surtout en Allemagne, mais je crois que les Allemands, ils n'aiment pas trop ces histoires d'humour, etc. Ils ne veulent pas comprendre que le terrorisme et la construction du mur étaient un peu la conséquence du nazisme. C'était un film qui s'appelait Les années du mur, donc ça c'était un film entre l'Est-Ouest, etc. Après un film donc, qui est passé récemment à la télé, Rosenstrasse, Hildegard von Bingen et bien sûr donc Hannah Arendt.
D'accord, très bien. Si on peut du coup c'est super, on a eu un bon aperçu de qui est Margarete von Trotta et de son cinéma. Et donc on peut cette fois parler un peu plus spécifiquement de Rosa Luxembourg. Donc, j'aimerais bien savoir, Elisabeth et Jean-Luc, vous, votre ressenti sur le film, si vous connaissez déjà bien Margarete von Trotta, comment vous la retrouvez dans Rosa Luxembourg.
Alors, nous connaissons Margarete von Trotta à travers Jutta, qui nous en parle souvent. J'ai aussi vu le documentaire dont elle parlait tout à l'heure. C'est quelqu'un de très, très agréable à écouter, très proche et...
Jutta, très simple.
Oui, Jutta l'a rencontrée d'ailleurs, elle pourra en parler. Le film de Rosa Luxembourg, je ne l'ai pas encore vu, Donc, je vais vous parler de Rosa Luxembourg, si vous voulez, qui est née, elle, dans ce qui était alors encore la Russie, mais qui est maintenant la Pologne, à Zamosk, qui est une ville qu'on connaît à Weimar, parce qu'il y a des échanges entre Weimar, Zamosk et Blois. Son parcours, c'est celui d'une militante marxiste, révolutionnaire et pacifiste. C'est un peu les trois mots clés. C'est une Européenne, Jutta l'a dit, parce qu'elle a beaucoup traversé l'Europe, vécu ici ou là. Donc, partie de Pologne, où elle est née, jusqu'à Zurich, où elle a étudié l'économie politique, et Paris, où à 22 ans, elle rédige son premier journal, qui s'appelle « La cause ouvrière ». Elle s'installe à Berlin en 1898. Je n'ai pas dit qu'elle était née en 1871, peut-être que je l'ai dit, je ne sais plus.
Je ne sais plus.
Et elle s'installe donc à Berlin. Elle devient allemande par son mariage avec un Allemand. Elle collabore à des journaux allemands. Elle est membre du Bureau socialiste international et elle participe à la plupart des congrès du SPD, qu'on connaît, qui existe toujours, le Parti social-démocrate allemand, et ceux de la Seconde Internationale aussi. En 1905, elle participe à la révolution à Berlin, ce qui était aussi la révolution en Russie. À Varsovie, hein, ce qui était aussi la révolution en Russie. Elle rédige de nombreux livres, donne des conférences. Beaucoup de fois emprisonnée pour ses écrits, elle passe la Première Guerre mondiale en prison, sans cesser de livrer ses analyses sur la révolution russe. En 1918, elle rejoint le groupe Spartacus. Elle se rapproche de Karl Liebknecht. Elle écrit Le drapeau rouge. Auteur du programme du Parti communiste allemand, elle est abattue le 15 janvier 1919 pendant la révolution allemande, lors de la révolte spartakiste. C'était une théoricienne du socialisme et en même temps elle s'opposait à la dérive guerrière de l'Allemagne. 100 ans après sa mort, elle reste une personne très moderne qui nous éclaire sur le temps présent.
Je trouve que c'est effectivement une figure historique, moi, que j'ai appris dans les livres d'histoire quand j'étais au lycée, donc ça reste une figure qui reste encore apprise et reste dans la mémoire. Et moi, j'aimerais aussi d'un coup, Jean-Luc, avoir. Est-ce que tu as vu le film?
Non,
tu
l'as pas encore.
Tu l'as pas encore vu. Eh ben, alors, moi, je l'ai pu le voir aujourd'hui, ce matin, le film, donc je l'ai assez fraîchement en tête. Moi, ce qui m'a personnellement, peut-être que tu seras d'accord avec moi, Jutta, marqué dans le film, c'est à quel point elle montre comment l'Allemagne aurait pu avoir un autre visage, en fait, si les choses n'étaient pas passées comme elles se sont passées, si Rosa Luxembourg avait réussi à imposer ses idées et ses idées politiques et sa façon de voir le monde. Peut-être que l'histoire aurait été bien différente.
Ça, je suis bien d'accord avec toi. Surtout aussi, ce que j'aime beaucoup dans les films de Margaret von Trotta, c'est qu'elle montre la vie quotidienne des gens. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, c'est pas... C'est pour ça que j'ai un tout petit peu moins aimé Hannah Arendt. Je trouvais ça un peu trop... je ne sais pas comment dire.
Je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas.
Tandis que Hildegard von Bingen, on voit la vie quotidienne des gens.
Oui, hein? D'accord.
Et ce qu'ils ressentent, ce qui est dans Rosa Luxembourg ou dans les autres films aussi d'elle. Et c'est vrai que ce film, Rosa Luxembourg, est très, très fort. Déjà, la première scène aussi, quand on voit ce mur avec la neige, les soldats, oui, et après, on la voit en bas, là, moi, c'est, de toute façon, c'est quelqu'un que j'aime énormément, comme disait déjà mon ami. Je l'ai rencontré lors d'un... À Paris, il y a tous les ans, il y a un festival du film allemand. Et elle présentait Rosenstrasse à ce moment-là. C'était la première fois que je l'ai vue, à part la voir sur des photos ou dans des documentaires. Elle a, Elle est très simple. C'est quelqu'un qui est vraiment très simple. On a envie, à la limite, de l'embrasser. Et je suis allée vers elle et je lui ai dit, écoutez, je vous remercie de vos films. Parce que c'est vrai que je les aime énormément, parce qu'elle est... Elle a une manière de filmer que je ne... Souvent, on se dit dans un film, c'est un film de femme. Là, on le voit aussi, mais elle, elle a en plus quelque chose de plus que d'autres. Par exemple, une autre que je n'aime pas trop, il faut dire que c'est Doris Dörry qui a beaucoup de succès en Allemagne. Je ne peux pas dire que j'aime ses films.
D'accord.
Et pourtant, elle a aussi dans le mouvement féministe, etc. Mais il faut dire qu'elle aussi, elle a reçu pas mal de prix pour ses films. Elle est membre de l'Académie des Arts de Berlin. Elle est même chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour le cinéma allemand. Autant que son ex-mari, Volker Schlöndorff ou Wim Wenders. Ben, c'est deux messieurs que j'aime beaucoup.
Oui,
aussi.
Qui sont aussi des figures du cinéma allemand aussi. Volker Schlöndorff, le tambour qui est du coup qui est un classique du cinéma allemand et pas que, un classique du cinéma tout court. Mais Rosa Luxemburg, Margarete von Trotta, pardon, n'a pas démérité effectivement.
Mais surtout pour le tambour, franchement, ouais. Normalement, je n'aime pas les adaptations au cinéma de romans. Je crois que c'est le seul film où je préfère le film au roman.
Ah oui, et ben en même temps, bon, on vous conseille le tambour, en même temps, en passant, s'il faut conseiller d'autres films. Et évidemment, on vous conseille d'aller voir Rosa Luxemburg le jeudi 9 mars à 20h30 au cinéma Les Lobbies. Voilà, qui c'est un film présenté par Cinéphile et l'association Bloweimar.
En association avec l'association Bloweimar, effectivement. Voilà. Et de ce fait, par le choix de Rosa Luxemburg, on arrive à mettre en valeur deux personnes. Aussi bien le personnage du film que la réalisatrice.
Oui, tout à fait.
C'était encore meilleur comme résultat que ce qu'on pensait.
Exactement. Eh bien, merci beaucoup d'avoir parlé avec moi de Rosa Luxemburg et de Margarete von Trotta. C'était une chouette discussion.
Merci.
Et à jeudi. Et à jeudi. On se retrouve pour la projection. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.
Avant de poursuivre avec Waiting with Fire, où je recueillerai avec moi Benoît, nous allons écouter une BO d'un film allemand que je connais beaucoup, peut-être que beaucoup connaissent aussi. Voilà, j'ai encore plein de choses à découvrir dans le cinéma allemand, mais c'est vrai que mes connaissances sont un peu limitées par rapport au film qu'on nous a beaucoup montré. Mais c'est heureusement un film que j'aime vraiment beaucoup et qui a une musique absolument belle, qui est composée par Jan Tiersen, qui avait composé déjà Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et donc là, le film en question, c'est Goodbye Lénine. Voilà, on écoute un extrait de la BO. Et on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Et pour commencer à parler du premier film que l'on va diffuser, c'est-à-dire Waiting with Fire, j'ai avec moi Benoît. Bonjour Benoît.
हमने अभी तक वो फोन चलाया भी नहीं है डर लग रहा है कि कहीं बिगड़ ना जाए कहीं कुछ ना हो जाए ऐसा समय ही आ गया है कि उसके बगैर हम नहीं मतलब पीछे रह जाएंगे मुझसे तो पूछते हैं तो मैं भी पूछ लेती हूँ कि आप कौन से कास्ट के हैं अब वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं भी कह देती हूँ मैं भी ब्राह्मण हूँ
जो खबर लिखनी होती है उसमें पैसा नहीं लगता है
इसलिए हमसे उतनी ही बात करी जितना समझ में आया
हमारे प्रदेश में दलित औरतों का पत्रकार के रूप में कोई सोच भी नहीं सकता 14 साल में हमने इस मानसिकता को काफी हद तक बदला है
इन दमंग लोगों ने क्या किया उसको पत्थर मारकर हत्या कर दी और किसी पर भरोसा नहीं एक लहरिया ही ऐसे न्याय दिला सकती हो
एक हैरान वाली बात है कि थाने को पता नहीं पुलिस स्टेशन को पता नहीं है
कि मैं उस जगह से हूँ
मार दिया मारू है
मेरे लिए तो बहुत ही रिस्की है
कभी 11 बजे कभी 12 बजे कोई टाइमिंग है नहीं है
इस जगह पे मैं हूँ उस जगह पे अगर आप होते तो क्या करते
पहले अपना काम बाद में देखते
मुझे तो नहीं लगता है
जो आपके साथ संगठन है वो देश के भविष्य में किस तरह भागीदारी में
संघ शक्ति कलयुग है संगठन है संगठन में शक्ति होती
है डर लग रहा दीदी अभी तो
खबरें कहाँ गईं कोई खबर दिख ही नहीं रही है जो हमारी कवरेज होगी वो अन्य मीडिया से बहुत अलग होगी
हर कोई को जानना चाहिए कि हाँ हम पत्रकार थे एक महिला पत्रकार और किस तरह की पत्रकारिता हमने की है
मेरा दिल हौसला देता है मेरे लिए
बोंजोर Alors Benoît, tu vas un petit peu me parler du contexte de ce film, dans quel contexte tu l'as vu et dans quel contexte aussi il s'inscrit dans la semaine L de cette année. Voilà, je t'écoute Benoît.
Alors je pars de la deuxième question, le contexte dans lequel il s'inscrit, c'est donc la semaine L comme tu l'as dit, et la semaine L qui a pour thème femme guerrière, femme de combat, de l'Amazone à la femme d'aujourd'hui. Et quand j'ai eu le bonheur de voir ce film, je ne connaissais pas encore le thème de la semaine L, mais quand le thème a été lancé, j'ai immédiatement pensé à ce film. Ce film, je l'ai vu à un festival qui s'appelle Femmes en résistance, qui a lieu tous les mois de septembre à Arcueil, et qui est un festival de films documentaires féministes, engagés, et... Clairement, il s'agissait d'une résistance. Alors, j'aime pas trop le terme de guerrier utilisé par des organisateurs de la semaine L cette année. Mais en tout cas, c'est un film de femmes de courage qui vont à une forme de front, et j'y reviendrai après. Pour illustrer ça aussi, je pourrais dire que ce film a obtenu le prix Courage Under Fire, Courage sous le feu, de l'Association internationale des documentaristes.
Oui, puis le film a eu plein d'autres récompenses d'ailleurs, ou de nominations, vu qu'il a aussi, par exemple, été nommé à l'Oscar du meilleur documentaire en 2021, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a particulièrement touché, en fait, dans l'approche documentaire qu'amène le film ?
Alors, par rapport à l'approche documentaire, ce que j'ai trouvé extrêmement... original, si ce n'est singulier, c'est que c'est un film construit comme un film choral. Et il parle de femmes journalistes, je viendrai un petit peu au propos du film ensuite, mais il parle de femmes journalistes qui apprennent le métier de journalisme d'image, puisqu'elles vont passer de la presse écrite à la presse à l'image. Et donc, il y a un peu cette mise en abîme d'un film sur des gens qui apprennent à faire des images. Donc, un film qui fait des images sur des gens qui apprennent à faire des images. Et c'est vraiment le fonctionnement d'un film choral, c'est-à-dire que c'est un film sur un collectif, en l'occurrence une rédaction de journal.
Ben justement, tu parlais du propos du film. Si on peut pouvoir expliquer de manière plus...
concrète, qu'est-ce que raconte ou dénonce le film ?
Alors, le film, une de ses forces, c'est de ne pas dénoncer frontalement. On nous donne à voir et on se fait une opinion. Malgré tout, ça parle. C'est un film éminemment politique dans la mesure où il parle de situations propres à une petite région de l'Inde, mais qui peuvent être, dans un certain sens, universelles. Alors, le propos du film, c'est de suivre, donc c'est les deux documentaristes, puisqu'il s'agit bien d'un documentaire, suivent un groupe de femmes qui sont la rédaction d'un journal qui s'appelle Khabar Laharia. J'espère ne pas trop écorcher son nom. C'est un nom hindi, puisque c'est un journal indien, mais un journal local indien, un journal qui se passe dans une région la plus pauvre, le plus pauvre des États de l'Inde, l'Uttar Pradesh, et dans des régions rurales, donc encore plus pauvres de cet État. Et donc cette rédaction de journal, elle a une spécificité énorme qui est d'être un journal entièrement écrit par des femmes. Et une deuxième spécificité qui se surajoute à cette spécificité, c'est que ces femmes sont toutes des Dalits. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que sont les Dalits.
Pas du tout, si tu peux m'expliquer.
Alors, les Dalits, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant en France, en Europe, des intouchables, c'est-à-dire des gens qu'on appelle, qu'on dit souvent de la plus basse des castes en Inde. Vous savez, en Inde, il y a ce système des castes qui sont des catégories sociales, un peu des classes sociales, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et ces femmes, donc de la plus basse caste, en fait, en réalité, elles sont même hors caste, c'est-à-dire hors de ce système très très référencé qui catégorise les humains avec une hiérarchie depuis la caste la plus noble qui sont les brahmanes jusqu'à ceux qui n'ont même pas de caste qui sont les dalits.
D'accord, très bien. Mais effectivement, le documentaire a l'air assez riche en termes d'informations ou de contexte de ce qui peut se passer là-bas. Moi, ce qui m'interroge quand même avec ce film, c'est que, on l'a dit, il a été nommé à l'Oscar 2021, il a reçu un grand nombre de prix, et pourtant, Cinéphile le propose en séance unique, parce que, en fait, le film n'a pas été distribué en France. Est-ce que toi, tu as une théorie, une explication à ça, de pourquoi le film n'arrive pas à trouver de distributeurs intéressés en France, alors que on est pourtant dans un moment où le sujet est brûlant, je veux dire. Donc pourquoi ce film-là n'a pas réussi à avoir d'écho alors que dans le monde entier il a pu en avoir?
C'est une question à laquelle j'ai pas une réponse totalement claire, mais une hypothèse forte. C'est le rôle particulièrement pour le documentaire qu'ont les chaînes de télévision dans le système de diffusion. Il a été préempté par une chaîne et il a peut-être été montré en fin de soirée sur une chaîne où il n'aura pas été rediffusé, et ça a tué toutes ses chances d'une diffusion en salle.
D'accord, ok. D'accord. Effectivement, tu vois, les choses se jouent sur des fois pas grand chose. On pourrait croire, tiens, pourquoi ce film-là il est pas arrivé en France, mais des fois c'est des choses toutes bêtes comme ça. Est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter sur le film, une petite phrase que tu voudrais particulièrement dire pour pouvoir motiver les gens à aller à cette séance unique, parce qu'en France, du coup, il a quand même très très peu de diffusion, on a très peu de chances de pouvoir le voir en salle en France. Donc si tu as un petit dernier mot pour pouvoir motiver les gens à aller le voir.
Alors, on est passé d'un petit dernière phrase à un dernier mot, je vais essayer
dernière phrase plutôt,
j'ai besoin d'un petit peu plus pour vous donner envie, j'espère, de vous ruer sur ce film le vendredi 3 mars. En fait, ce qui est passionnant dans ce film, c'est que Il inscrit son propos dans un propos extrêmement local. Ça se passe dans une petite région rurale de l'Inde où vous avez très très peu de chances de vous rendre. Peut-être vous allez voir le palais du Taj Mahal qui n'est pas très très loin, mais dans ces régions déshéritées de l'Inde, vous avez peu de chances d'y aller. Donc ça s'intéresse à une situation extrêmement locale avec des situations de corruption, le BJP, le parti nationaliste hindou qui fait régner un régime quasiment mafieux. Donc ça pourrait paraître totalement exotique, sauf que ça parle aussi beaucoup de nous, de l'évolution de la presse, donc du virage de la presse écrite vers une presse réseaux sociaux et Internet. Ça parle de la difficulté d'exercer son travail de journaliste dans des conditions d'un monde préempté par la communication. Donc ça parle de nous tout en parlant de ce pays très très lointain.
Eh ben, merci beaucoup, Benoît, d'avoir pu t'exprimer sur ce film et d'avoir, j'espère, donné envie de pouvoir le voir. Voilà, Waiting with Fire, c'est dans le cadre de la semaine Elle et c'est vendredi 3 mars à 20h30 au cinéma Les Lobbies. Voilà, allez-y nombreux. Je remercie à nouveau Benoît et puis tous nos comparses de Blois-Weimar. Donc voilà, vous pouvez retrouver les films. Alors, Waiting with Fire, ça sera le vendredi 3 mars et Rosa Luxembourg, ce sera le jeudi 9 mars. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous de très bons films et de très bonnes journées. On se retrouve dans 2 semaines pour un tout nouveau programme. Allez, au revoir.